Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Aujourd'hui, nous allons parler de cette Église bien vivante, notamment à travers la jeunesse, car oui, les jeunes ont toute leur place dans l'Église aujourd'hui, avec leurs questions, leurs élans, leur engagement. Ils apportent ce souffle nouveau, une espérance bien réelle. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir ici, dans ces studios de Lourdes, Monseigneur Jean-Louis Balza, évêque d'Albi. Bonjour, Monseigneur.
Oui, bonjour.
À vos côtés, le Père Sébastien Dankioff, vicaire général et responsable de la pastorale des jeunes. Bonjour, Père Sébastien.
Bonjour.
Laurence Boer.
Oui, bonjour.
Des enfants, bonjour.
Bonjour.
Lise Bézia et Marie-Lou Marty, dynamiques, engagées dans la foi.
Oui. Toujours.
Qu'est-ce que vous pouvez dire en ce début d'émission de cette jeunesse que vous représentez ici devant Monseigneur Balza, votre évêque, cette jeunesse qui ne cesse de s'accroître et de grandir, notamment et en particulier avec les adolescents qui ont été près de 7000 sur toute la France à demander le baptême.
Oui, c'est vrai que je vais parler au nom de Marie-Lou et moi, on a toujours été appelés sur différents pèlerinages, différents rassemblements diocésains et même au niveau régional, voire national. Ça a toujours été un plaisir pour nous de partager ces moments-là, que ce soit en tant que jeunes durant nos préparations des différents sacrements, ou que ce soit justement pour accompagner les nouveaux jeunes qui rejoignent donc le diocèse et qui rejoignent aussi la préparation des sacrements.
Oui, moi je partage totalement ce que Lise elle a pu dire. C'est vrai que comme on en a déjà eu l'occasion d'en parler, mais sur chaque pèlerinage qu'on a pu faire, c'est à chaque fois différent. Les jeunes réagissent et répondent à chaque fois différemment. Et c'est aussi des leçons et de nouvelles choses qu'on apprend tout à chaque fois, donc c'est vraiment bien.
Alors, Monseigneur Balza, nous venons d'apprendre, et l'Église est en deuil, l'Église tout entière, l'Église universelle, le décès, c'était ce 21 avril du pape François. Comment rendre hommage au pape François ?
C'est un deuil, mais vous savez, dans l'Église, c'est un deuil presque joyeux. C'est une action de grâce. On n'est pas en train de pleurer. D'ailleurs, j'ai vu à la télévision, les gens ne pleurent pas. Il y a même une rende grâce pour l'homme que ça a été, qui nous a été donné. Donc, on rend à Dieu, finalement, ce que Dieu nous avait donné. Et donc, c'est vraiment une belle histoire. Alors, pour juste dire que sa mort est à son image, quoi. Finalement, c'est une belle mort, on peut dire. Il a dit au revoir à tout le monde sur la place Saint-Pierre. Et puis, le lendemain, il est parti tranquillement. Voilà, donc, vraiment, c'est un cadeau que Dieu lui a fait aussi de pouvoir mourir de cette manière.
Alors, que gardez-vous du pape François, 10 ans après, si vous deviez faire un bilan de votre ministère d'évêque, hein, et vous rappelez de ce moment qui est toujours un peu un moment unique quand on est appelé par le pape.
Non, moi, ce qui m'a marqué dès que je suis devenu évêque, c'est en fait ce qu'il avait fait à Lampedusa, c'est-à-dire d'aller voir lui-même des gens qui traversaient la Méditerranée et qui, du coup, qu'il fallait aller encourager, mais non pas par des discours, mais par des actes. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est un pape qui lui a pas fait d'abord des grandes déclarations, mais y aller manifester physiquement là où il fallait être. Voilà, donc ça m'a marqué beaucoup. Et du coup, moi, ça a déterminé une forme de pastorale aussi assez concrète, quoi. Voilà.
Et pour vous, Père Sébastien, vous avez été marqué aussi ces 12 ans de pontificat par le pape.
Oui, bien sûr, j'étais marqué par le pontificat du pape François. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile. Et notamment sur une invitation faite à tous les catholiques de sortir d'une logique de conservation, une logique de conservation pastorale pour vivre une véritable conversion pastorale. Et en pastorale des jeunes, c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en œuvre pour être audacieux et pour faire des propositions adaptées à la jeunesse d'aujourd'hui.
Alors, vous êtes vous-même vicaire général et vous êtes vous-même, pour ce diocèse d'Albi, responsable de cette pastorale des jeunes. Vous les accompagnez de près, donc ces jeunes du diocèse, à travers de nombreux événements. Qu'est-ce qui vous touche ou qu'est-ce qui vous interpelle dans leur manière de vivre leur foi aujourd'hui, Père Sébastien ?
Ce qui m'interpelle chez les jeunes, c'est justement leur sincérité, leur vérité. Je crois qu'ils ont beaucoup de simplicité pour dire les choses. Hier soir, nous avions un témoignage de jeunes du Sénacolo. Et après ce témoignage, il y a eu de multiples questions. Ils n'étaient pas impressionnés par les témoins, par les adultes qui les accompagnent. Et avec beaucoup de joie, d'envie, de désir, ils posaient de bonnes questions.
Face aux défis auxquels sont confrontés les jeunes aujourd'hui, comment l'Église peut-elle les accompagner dans leur quête de sens, leur quête de vérité et de répondre à toutes leurs attentes et ces attentes notamment, plus particulièrement spirituelles, ce désir de découvrir la foi, d'être formé, de se former, de devenir aussi ses futurs témoins pour l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain, Monseigneur Balza.
Oui, alors moi ce qui me frappe, alors j'ai eu la chance là, de lire les lettres des confirmants de ceux qui demandent la confirmation et donc ce qui me frappe chez les jeunes, là, c'est d'abord l'expérience qu'ils font, l'expérience spirituelle qu'ils font. Et donc, ils n'ont pas attendu l'Église pour une quête de sens. Donc là, c'est assez spectaculaire, d'où sont rencontrés plus ou moins Dieu d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ils se rapprochent de l'Église pour dire, bon, c'est dans l'Église, ils sentent que c'est dans l'Église, ils vont pouvoir continuer le chemin. Et par chance, il se trouve que dans le Tarn, eh bien, on a une Église qui propose beaucoup de choses. Donc il y a un lien entre l'offre et la demande, si vous voulez. Il y a une demande de jeunes plus ou moins implicite, hein, et une offre qui est faite et qui vraiment qui vaut la peine. Enfin, moi, je suis depuis que je suis là, je suis vraiment.
C'est de l'émerveillement.
Oui, oui, émerveillement, parce que d'abord, c'est pas partout pareil. Et puis, alors, c'est beaucoup de travail. Pour laisser la parole à Laurence, qui est la responsable de la pastorale des jeunes et de la catéchèse. Mais c'est beaucoup de travail. Mais du coup, ce travail vaut la peine parce que du coup, ça permet aux jeunes de pouvoir faire que leurs questions puissent être posées, honorées, puis on cherche ensemble.
Alors oui, Laurence Bauer est à vos côtés, Monseigneur Balza, responsable de cette pastorale des jeunes. Quels sont les grands défis, Laurence? Vous avez toujours le sourire, vous semblez dynamique, c'est la première fois que je vous rencontre et que je vous reçois. La responsabilité est grande quand on parle de cette jeunesse, et puis cette jeunesse qui correspond au devenir aussi et l'avenir de l'Église. Alors on en est où dans cette pastorale et particulièrement dans votre diocèse de
Mais déjà, quand on accompagne des jeunes, on ne les regarde pas comme l'avenir, justement, de l'Église, mais comme le présent. Leur place est nécessaire, est importante. Ils ont leur place, bien sûr, dans cette Église, comme tous les chrétiens baptisés. Donc ça, c'est le premier défi. Et puis, notre défi, c'est aussi, alors nous, on est en diocèse, mais d'accompagner tous ceux qui sont au service de ces jeunes sur le terrain. Et ça, c'est important de savoir aussi les mettre en valeur, les accompagner, les soutenir, leur dire qu'on est présent, bien sûr, mais être avec eux. Et donc aussi d'être avec les jeunes, de leur faire des propositions pour dans différents événements et de pouvoir répondre aussi à leurs attentes et leurs demandes, c'est être avec. En fait, on vit avec eux.
Vous parlez d'attentes. Quelles sont leurs premières attentes?
On voit qu'il y a un besoin de sens dans leurs questions. On sent qu'ils cherchent, mais comme a dit Monseigneur Balza, dans les lettres des confirmants, il y a aussi une rencontre déjà qui se fait avec le Christ et il y a quelque chose qui se vit. Et donc, du coup, nous, notre défi, c'est d'être là, présent et de savoir accueillir à n'importe quel moment leur demande. Parce qu'en fait, nous, parfois, on prévoit des choses, mais c'est aussi l'imprévu du Seigneur qui est aussi notre imprévu dans la mission et ça passe par les jeunes.
Vous avez envie de réagir, Lise et Marie-Lou, puisqu'on parle de cette jeunesse et que vous représentez ces jeunes, non pas pour demain, l'avenir de demain, mais cette Église, c'est aujourd'hui qu'elle est en route. Quels sont les témoignages que vous pouvez nous donner?
C'est vrai que du coup, durant les différents pèlerinages qu'on a pu faire, que ce soit, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à différentes échelles à chaque fois, mais chaque pèlerinage est totalement différent. On a tous des attentes qui sont totalement différentes durant les différents pèlerinages. Et aussi, comme le disait Laurence tout à l'heure, on a chacun nos attentes personnelles. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ce soit Monseigneur ou le Père Diankov ou alors Laurence, ils finissent par nous connaître un petit peu. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a des liens qui se créent et bien sûr qui nous répondent de plus en plus à nos demandes, à nos attentes, à nos questions. Et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de venir.
Quelles sont vos questions? Quelles sont les grandes questions aujourd'hui de votre génération?
C'est vrai qu'en ce moment, la question qu'on se pose et qui vraiment reste en tout cas, c'est pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qui nous a vraiment poussé à être ici et à être autant engagée, parce que bah, c'est vrai que du jour au lendemain, on se retrouve à faire des pèlerinages pratiquement tous les mois.
Alors c'est bien d'en parler, vous parlez de pèlerinage, on est ici dans ces studios, dans ce sanctuaire de Lourdes, et vous êtes toutes les deux au service de la mission, et vous êtes au service de ces collégiens qui se préparent, d'après les quelques informations, qui se préparent à recevoir ce beau sacrement de la confirmation. Alors Marie-Lou, qu'est-ce qui vous motive autant à donner votre temps voilà.
Moi, je pense que ce qui m'aide, enfin pas ce qui m'aide, ce qui me m'attire dans les pèlerinages, c'est d'abord, en fait, je pense que d'abord c'est important de spécifier que les pèlerinages, nous, on peut les vivre de deux manières. L'année dernière, on a pu vivre des pèlerinages en tant que jeunes, donc où on était, c'était nous qui allions nous faire confirmer. Enfin, c'était pas l'année dernière, mais c'était il y a quelques années. Et maintenant, on peut aussi les vivre en tant que staff. Et moi, ce qui m'attire dans faire ce pèlerinage en tant que staff, c'est aussi donner l'envie aux jeunes qui préparent leur confirmation, de prendre ma place après. Et en fait, même si on est là pour les encadrer, eux, ça nous apporte des choses à nous. C'est des moments de prière, des moments de questionnements qui sont toujours présents malgré le fait que nous, on a déjà reçu notre sacrement de confirmation.
Alors, on prépare comment un tel pèlerinage, Laurence Bauer, un pèlerinage qui rassemble de nombreux collégiens, Père Sébastien, Laurence Bauer ou Monseigneur?
Bien, déjà, on le prépare en équipe. Ça, c'est important de se soutenir, d'avoir les idées, de les partager, de confronter aussi nos... Voilà, et puis toujours se rappeler pour qui nous sommes là et du coup pourquoi aussi nous sommes là. Mais d'abord pour qui ? Pourquoi ces jeunes, on va les inviter ? Qu'est-ce qu'on a envie aussi qu'ils vivent ? Et bien le plus important pour nous, c'est cette rencontre avec le Christ et ce cheminement et cet approfondissement de vie chrétienne. Et ça, c'est nécessaire. Et donc du coup, ben, c'est ça qui nous motive aussi et qui nous permet de nous appuyer sur différents points.
En fait. Alors quel est un peu le programme pour ce pèlerinage sur 4 journées avec ces nombreux collégiens qui vont recevoir ce sacrement de confirmation.
Alors, déjà, sans rentrer forcément dans tous les détails, mais nos trois journées, c'est d'abord pour la confirmation, c'est se rappeler notre baptême et le prénom que nous avons reçu. Et ce prénom, eh bien, c'est aussi le signe d'une vocation. On est appelé par le Christ, par notre prénom. On n'est pas un numéro, voilà. On n'est pas un individu, on est une personne. Et puis, on continue en découvrant aussi qui est l'Esprit Saint en tant que personne de la Sainte Trinité. Voilà, et enfin, c'est bien de recevoir, mais on est appelé à donner, et comment dans notre vie chrétienne, on peut être des disciples missionnaires, très chers au pape François d'ailleurs. Et voilà, donc la vie chrétienne avec les 5 essentiels.
Vous intervenez de quelle manière, Père Sébastien, au cours de ces 4 journées, auprès de ces nombreux collégiens qui vont faire une étape importante dans leur cheminement de foi ?
J'interviens dans un soutien aussi à Laurence, un soutien logistique aussi, spirituel. Et puis donc, Monsieur Balsa aussi assure des catéchèses qui permettent aux jeunes d'approfondir le sens de la personne de l'Esprit Saint, la découverte aussi de l'appel de Dieu. Enfin, voilà, il y a tout un programme qui a été préparé. C'est un long temps de préparation pour 3 journées intenses. Mais c'est une joie que de vivre tout ça avec les jeunes. Oui.
Monseigneur Balsa, vous avez une devise. Votre devise, c'est « Passons sur l'autre rive ». C'est une belle image de l'Évangile qui symbolise cette traversée et puis cette mission. Que représente cette traversée pour vous, tant sur le plan personnel que pastoral, Monseigneur ? C'est une belle devise « Passons sur l'autre rive ».
Alors, d'abord, c'est Jésus qui n'arrête pas de dire, puisque vous savez que Jésus fréquente le lac de Tibériade essentiellement, donc il n'arrête pas de balader ses disciples d'une rive à l'autre. Et à chaque fois qu'il est sur une rive, il dit toujours « Passons sur l'autre rive ». Alors là, moi, la rive, ce texte de Saint-Marc, c'est à un moment donné, il s'embarque avec les disciples. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un but, l'autre rive. L'autre rive, en fait, c'est un cimetière. C'est-à-dire, il y a une mission pour aller sauver quelqu'un. Parce que dans ce cimetière, il y a quelqu'un qui est enchaîné et personne n'a réussi à le libérer. Ils l'ont même enchaîné dans le cimetière. Et donc, le but de Jésus, c'est d'aller viser cette personne. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus vise toujours des personnes. Il ne va pas faire des grandes foules comme ça, mais des personnes. Et puis, deuxième chose, c'est qu'avant d'arriver dans cette mission, il faut s'embarquer dans l'église. Et dans l'église, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, ce n'est pas la grande croisière. Ce n'est pas la croisière s'amuse non plus. C'est d'une tempête qui va surgir à un moment donné. Donc, ça suppose aussi que dans l'église, on ait la foi en Jésus. Ce qui est paradoxal parce que dans ce texte, on a l'impression qu'il dort. D'ailleurs, il dort sur la barque. Lui, il est tranquille. Les disciples sont moins tranquilles. Et donc, quand la tempête va survenir et attaquer l'église, ils vont se retourner vers lui en se disant, et il leur dira, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas la foi? Donc, c'est à la fois avoir la foi à l'intérieur même de l'église. Et en même temps, avoir un but. Parce que le but, ce n'est pas de faire une croisière. Le but, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aller sauver quelqu'un avec le Christ. Voilà, donc passons sur l'autre rive, c'est vraiment ça. Et une fois qu'il l'a fait, il leur dit maintenant, passons sur l'autre rive. Donc, ils reviennent en arrière.
Voilà. Est-ce que ça vous parle, les filles? Vous restez présentes à cette belle devise. Hein, et puis, Monseigneur nous rappelait aussi que c'est Jésus, hein, dans l'Évangile, qui nous le rappelle, de passer sur l'autre rive. Lise ou Marie-Lou, Lise?
C'est vrai que, comme il l'a dit, du coup, donc, sur le début de son explication, quand on dit qu'on est là un petit peu pour sauver quelqu'un, on l'a tous senti. Moi, je sais que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, durant ma confirmation, j'ai vraiment ressenti ce besoin d'aller aider les autres comme on m'avait aidé et comme on m'avait sauvé aussi auparavant. Et donc, du coup, oui, c'est vrai qu'on est tous là parce qu'on est tous un petit peu passés par une rive et on en a encore beaucoup à traverser, je pense. Et donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui résonne beaucoup en nous et que...
Avec Lise, on en avait déjà parlé sur notre confirmation, ça a vraiment été un déclic sur le fait que maintenant c'est à nous d'aider les autres à traverser la rive. Et donc je pense que c'est aussi ça qui nous attire dans ces pèlerinages, tout ça.
Vous avez envie de réagir, Laurence? Je vois vous sourire en écoutant.
Oui, parce que oui. C'est beau aussi de se dire, moi j'ai été aidée et à mon tour je vais aider. Et c'est la transmission finalement, et passer d'une autre rive. Alors chacun, on a des rives à traverser, mais en même temps on les traverse avec d'autres. Donc c'est ça qui est intéressant quand je les entends, c'est ça que je trouve de beau. Elles ont aussi compris le sens de la transmission. Et comme nous, on est tous appelés à transmettre ce que l'on a déjà reçu.
Il y a eu ce grand boom, je ne perds pas de vue aussi ce thème de la jeunesse avec le diocèse d'Albi qui est représenté aujourd'hui dans ce magazine de Vivante Église. Vous devez chacun dans vos fonctions, vos ministères, vous réjouir de ce boom, de ces baptêmes que nous avons eus, près de 10 000 baptêmes adultes et près de 7 000 baptêmes d'adolescents. Comment faites-vous la relecture, Monseigneur, de ces nombreux baptêmes? C'est un réveil de l'Église de France, d'une jeunesse qui sommeillait, qui dormait, ou de toute une Église qui se remet en route et qui répond à nouveau à l'appel du Seigneur.
Ça sera toujours un mystère, l'Église. Hein. Quand on voit l'histoire de l'Église, ça passe par haut et débat.
Tout à fait. Avec ses hauts, ses joies, ses peines et ses crises.
Voilà. Maintenant, ce qui se passe actuellement, faut voir que dans la durée, hein, mais ce qui se passe actuellement, à mon avis, c'est que nous sommes dans une période, et peut-être qu'on va commencer à en sortir, d'une certaine purification de l'Église. Il y a eu beaucoup de problèmes, d'événements, et l'Église de France en particulier, elle a pris à bras le corps un certain nombre de problèmes avec des gens qui, eux, sont des adultes, et ont osé affronter, et en même temps, avoir vécu une certaine pauvreté. Et finalement, cette pauvreté qui semblait être un déclin, en fait, elle devient une richesse. C'est parce qu'on a cette pauvreté que du coup, des tas de gens, et des jeunes en particulier, se disent « c'est là qu'il y a un avenir ». Donc moi, j'interprète ça, non pas parce que sociologiquement, j'entends dans les médias, oui, c'est tout des paumés qui arrivent là parce que la société, ils ne sont pas satisfaits. Non, je crois qu'il y a vraiment il y a un rapport. Et puis d'ailleurs, en plus, c'est Dieu qui est en train d'agir. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que c'est Dieu qui le veut et qui est en train d'appeler des gens. Ils appellent d'ailleurs indépendamment de nous.
Je vous propose une plage musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de ce Vivante Église. Merci à chacun et à tout de suite.
Un jour, une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte qu'elle sommeille en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins. que son message un jour viendra. Alléluia, alléluia, alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi, vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'alléluia. Alléluia. 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 La dame dit, voulez fort garder la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore, et le monde attend le temps de l'alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
De ce magazine de Vivante Église, une deuxième partie avec cette jeunesse qui nous arrive du diocèse d'Albi, avec aussi ses responsables. Monseigneur Jean-Louis Balza, vous êtes présent. À vos côtés, Laurence Boer, responsable de la pastorale des jeunes et de la catéchèse, et puis vous-même, Père Sébastien, aussi prêtre depuis 18 ans. Qu'en est-il ? Ça sera ma question pour relancer de ces nombreux, et on peut se réjouir, ces nombreux baptêmes, près de 10 000 adultes, 7 000 jeunes adolescents sur toute la France. L'Église était-elle prête pour le service après-vente, c'est-à-dire l'accompagnement et la formation ?
Alors moi, je ne parlerai pas de service après-vente, parce que la question, c'est le avant-vente. Si on veut, c'est un tout, en fait. Si on dit après-vente, ça voudrait dire qu'il y a un moment donné, on aboutit à quelque chose et ensuite on passe à autre chose. Non, si c'est ça, non, c'est un tout depuis le début jusqu'en permanence. Voilà, donc la question, elle n'est pas tellement après qu'avant. Est-ce qu'avant, on prépare uniquement un sacrement et puis après, comme le permis de conduire, ben, une fois qu'on l'a, il n'y a plus besoin d'aller à l'école du permis de conduire? Ou est-ce que en fait, on fait de la conduite accompagnée et que la conduite accompagnée continuera largement après, quoi. Donc, il n'y a pas de service après-vente, à mon avis. Ça dépend beaucoup de ce qu'on fait en amont et de la communauté qu'on crée. Et avec les jeunes en particulier, c'est intéressant, c'est que ça crée un réseau de jeunes qui vivent ce qu'on appelle les 5 essentiels de la première communauté chrétienne, la prière, le l'Eucharistie, la vie fraternelle, le service des pauvres, etc. Donc, tout dépend en fait de ce qui est vécu en amont. Si c'est simplement avoir 5 séances ou 6 séances de préparation à un sacrement, ce ne sera qu'une préparation à un rite. Et puis après, basta. Mais tandis que là, non, il s'agit de vivre quelque chose en amont qui devrait continuer en aval, quoi.
Et c'est ce que propose le diocèse de Dalby. Oui. On imagine bien que vous êtes préparé.
C'est ce qui nous tient à cœur, parce que préparer un sacrement, finalement, c'est comme si il y avait une fin. Alors qu'on prépare plutôt le sacrement et dans la vie, dans la préparation à la vie chrétienne. Enfin, la vie chrétienne doit grandir chaque jour. Et en fait, le sacrement est une proposition dans ce chemin de vie chrétienne. Et donc, oui, si on pense toujours à préparer à la première communion ou un tel sacrement, point. C'est pour ça que nous, dans la retraite, on essaye de voir aussi d'aller plus loin qu'une préparation à la confirmation. Ce qui est important, c'est mais qu'est-ce qu'on, en tant que jeune, quelle est notre vie chrétienne et comment on peut y aller ensemble.
Alors, cette formation, vous l'avez au quotidien, Lise et Marie-Lou. Se concrétise comment, cette formation de votre vie chrétienne?
Je pense que les différents sacrements qu'on a eus, ça marque vraiment le début, au final, où la continuité, c'est vraiment dans la continuité de notre vie chrétienne. Et je pense que ça témoigne une réelle évolution après, en fait. Après ce sacrement, ça ne s'arrête pas, c'est pas un point comme l'a dit Laurence, c'est juste la poursuite de notre vie, l'approfondissement en fait de cette vie chrétienne et juste la suite de... Enfin, arriver à faire suivre les autres aussi.
Ah oui, c'est vrai que aussi par rapport à l'entraide qu'il y a dans le diocèse, je pense qu'on est un diocèse où même les jeunes, on est très soudés entre nous. Je sais que nous, les pèlerins qu'on était du coup durant les préparations des confirmations ou d'autres sacrements, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours amis et c'est vraiment, ça nous a vraiment soudés tous. Et même, avec Marie-Lou, on est amis dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que les sacrements et les différents pèlerinages qu'on fait, on en parle souvent d'ailleurs. C'est ce qui nous lie et c'est ce qui nous pousse à nous voir et à nous voilà à partager des moments toujours aussi formidables.
Vous avez souligné aussi l'importance aussi de l'amitié.
Ah oui, totalement. Enfin, je sais pas ce que tu...
Oui, je pense que nous c'est une, l'aumônerie, les pèlerinages qu'on peut faire, c'est vraiment ce qui fait que on est amis comme on l'est aujourd'hui. Et donc ça montre que l'amitié est vraiment un pilier fort dans notre évolution.
Alors, si vous aviez une ou deux questions à poser ici, dans ce Vivant Église, à Lise et Marie-Lou, Monseigneur, une ou deux questions, ou alors on inverse les rôles. Si vous avez une ou deux questions à poser à votre évêque, les filles, n'hésitez pas à poser la question aussi à votre évêque, qui est, lui, chargé aussi de vous répondre, de vous enseigner, de vous montrer aussi, comme l'indique aussi son ministère, en tant que pasteur, de vous montrer la route.
C'est un évêque qui est quand même très souvent avec nous et donc dès qu'on a une question, on peut quand même, il est quand même assez à l'écoute. Et
c'est un évêque qui est sur le terrain.
Oui, je pense. Enfin, totalement. Nous, on a pu faire Thésée, il a été présent à Thésée. Il y a eu plusieurs pèlerinages où il a été là, des journées importantes où il est très proche de nous, je pense.
C'est important pour les jeunes de voir le pasteur au milieu de ces jeunes.
Ah oui, non seulement de voir notre évêque, c'est vrai que de voir souvent, tout le temps en fait, même nos accompagnateurs qui sont toujours présents, comme on le disait au début, qui sont toujours présents pour nous et je pense qu'on donne beaucoup pendant les pèlerinages, mais à l'inverse, on reçoit encore plus même, donc c'est vraiment très beau à avoir.
Voilà, moi je me souviens en fait de ce que le pape François avait dit à un moment donné, quand on est évêque ou pasteur, on est parfois devant, au milieu ou derrière le troupeau. Voilà. En tout cas, moi comme évêque et vous fréquentant, hein, puisque vous êtes là, vous représentez entre guillemets les jeunes, quoi. Non, c'est pouvoir continuer à être nourri moi-même de... Parce que c'est quoi mon ministère finalement? C'est de donner les moyens et de vérifier que vous avez tout pour rencontrer le Christ. Donc du coup, c'est pas théorique, c'est de pouvoir sentir ce que vous dites, ce que vous cherchez, le partager aussi avec Père Sébastien, avec Laurence, puis donner des moyens pour ça, et puis me dire, finalement, l'Église qui m'a été confiée, j'essaye qu'elle, justement, les moyens soient pris pour que le Christ soit vivant pour vous, et que vous puissiez être sauvés. Donc, mais ça peut se faire qu'en vous connaissant. Voilà, en sachant qui vous êtes, voilà. Et donc j'ai cette chance aussi que vous me permettez et aussi d'être votre évêque. Parce que c'est pas parce qu'il y a marqué évêque sur le front que je suis l'évêque. Mais c'est aussi parce que c'est cet échange qui m'apparaît intéressant, le dialogue comme ça. Alors j'ai des échanges à gauche, à droite, et puis voilà. Donc je vous remercie publiquement à la radio.
Nous, on vous remercie aussi beaucoup parce que... bah, vous êtes tout le temps là, en fait, sur tous les piliers importants, enfin, les piliers de notre vie chrétienne. Vous êtes vraiment là et à l'écoute, et donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc merci beaucoup.
Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que du coup, il y a moi, mais il y a un tout.
Ah, oui.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une organisation qui n'est pas uniquement de l'organisation, mais des personnes. Parce qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont venus aussi, qui sont là, présents. Beaucoup de laïcs, du coup.
Oui.
Donc moi, je suis un des morceaux du Pulse. Voilà, qui compose. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun peut avoir sa place parce que chacun prend sa responsabilité.
Oui.
Et vous, vous prenez la vôtre aussi. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant. Du coup, c'est vraiment un tout très articulé, comme un corps, quoi, comme dit saint Paul.
Mais même des fois, vous ne pouvez pas vous rendre disponible. Et du coup, on est avec Laurence, Sébastien, avec d'autres prêtres qu'on connaît beaucoup. Et justement, c'est à force de travailler avec vous qu'on se connaît de mieux en mieux, qu'on sait ce que vous attendez de nous, qu'on sait ce que vous savez au final ce que nous on attend de vous. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi et qu'on se plaît autant en fait dans ce milieu.
Vous avez envie de réagir, Père Sébastien, parce que ces jeunes aussi, hein, tout comme Monseigneur et puis Laurence Boer, vous êtes aussi sur le terrain, vous faites partie de ce corps et de cette équipe. Ça vous touche quand vous entendez ces retours aussi? Ça vous encourage?
C'est très encourageant. Et puis bon, on connaît bien Lise et Marie-Lou. Et puis il n'y a pas que Lise et Marie-Lou aussi. Parmi les lycéens, il y a d'autres lycéens qui sont là présents et qui donnent du temps. Ce qui est important aussi, je crois, c'est de donner aussi des responsabilités à des jeunes pour qu'ils prennent le goût aussi de l'accompagnement. Hein, ils ont cheminé donc dans leur foi, ils ont reçu comme ils ont dit, mais ils ont envie aussi de transmettre, de donner, et puis encore de continuer à recevoir, bien sûr, tout en donnant. Et je vois que c'est une vraie, véritable école, je dirais, de la mission. Oui.
Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'on a un diocèse qui a la chance d'avoir une unité. C'est-à-dire que la pastorale des jeunes est unifiée. Il n'y a pas des chapelles, si vous voulez, à gauche, à droite, il y aurait les jeunes d'un tel, les jeunes de machin, les jeunes de truc. Et ça, c'est intéressant parce que ça articule à la fois l'unité d'un diocèse et la diversité des différentes paroisses, communautés, lycées, enseignements gratuits. Donc vraiment, on a une chance à la fois, c'est un diocèse. Et en même temps, chacun peut vivre localement aussi ce qu'il a à vivre, sans opposition et sans division.
Sans tension, au fond.
Et sans tension.
Et oui.
Alors là, vraiment,
donc,
et ça, c'est cadeau.
C'est le point fort de votre diocèse. C'est le point fort. C'est le cadeau, oui.
Voilà. Et ça, c'est une volonté que tout le monde a derrière, quoi. Ça ne se fait pas comme ça, parce que le diable n'a pas intérêt à ce que ça marche comme ça, mais on le fait. Donc, du coup, ça, c'est une force aussi, l'identification diocèse, et en même temps, des communautés de base, à gauche, à droite, voilà.
En tant que pasteur, guide de votre diocèse, le souci des jeunes et aussi le souci, comme tous les soucis, l'attention aussi de l'accompagnement aussi des prêtres. Comme tout pasteur, vous veillez aussi sur les prêtres de votre diocèse. C'est un point important aussi pour vous?
Pour moi, c'est essentiel. Alors, les jeunes, c'est important. Mais pour moi, les prêtres, c'est essentiel parce que les prêtres, et un évêque et les prêtres, c'est un tout. Là, vraiment, je ne conçois pas qu'on puisse... enfin, voilà. Donc, c'est vraiment les prêtres, c'est une démultiplication de l'évêque, non seulement parce qu'ils disent la messe eux-mêmes, mais c'est la même messe que l'évêque, hein, il n'y a pas de différence, mais en même temps, c'est une démultiplication qui permet que le Christ se propose, en fait, aux uns aux autres. Voilà. Et là, je suis très, très fier que les prêtres, massivement, sont là, sont venus, en plus de leur ministère, enfin, ça fait partie de leur ministère, hein, mais ils prennent le temps de venir là. Ça, c'est quand même un cadeau aussi qu'on a des prêtres qui répondent, quoi.
L'unité aussi des prêtres, hein. Ça c'est un vrai combat, Monseigneur.
Pour moi, c'est pas un combat, c'est un état d'esprit. Toujours se méfier que, à un moment donné, le pape François l'avait souvent dit, méfions-nous toujours que de ne jamais parler en négatif de quelqu'un qui n'est pas là. Voilà, s'il y a quelque chose à lui dire, on lui dira en face. Mais voilà, donc on n'alimente pas comme ça quelque chose. Et donc d'être très attentif à chacun aussi, à sa vie, à son évolution, à ses questions. À des moments ça va, d'autres moments ça va moins. On est des hommes. Hein. Mais voilà, donc pour moi, c'est un rôle très important d'être attentif à cela, quoi.
Quelles sont les grandes questions des prêtres aujourd'hui?
Les grandes questions, justement, par rapport aussi... à ce qui nous arrive avec cette affluence de catéchumènes, cette affluence aussi de jeunes, c'est le défi de l'accompagnement. Je parlais tout à l'heure du pape François et de son exhortation sur la joie de l'évangile, sur la mission. Il nous parlait de conversion pastorale. Je crois qu'il faut aussi qu'on change de logiciel parce qu'on est très adaptés pour accompagner à la préparation de sacrement, mais on n'est pas forcément prêt pour accompagner à la vie, au cheminement spirituel, surtout sur du long terme quelque part. Et là, ça nous demande aussi de vraiment changer un certain nombre de choses. Je vois dans une paroisse où jusqu'à la confirmation, il y a un accompagnement. Il y a un groupe de lycéens qui est venu avec nous à Thésée, mais il n'y avait pas de suivi pour ces lycéens-là. Donc ça montre qu'encore, on n'est pas tout à fait prêt et il faut vraiment qu'on s'y mette, oui.
Vous avez envie de réagir, Laurence?
Ah oui, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, aussi bien chez les enfants que chez les jeunes. On a des schémas tout faits, des habitudes de fonctionnement, mais qui aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un frottement, parce que beaucoup de personnes engagées disent « mais je ne sais plus comment faire, on ne sait pas ». Et puis quand il y a des... Voilà. Et c'est maintenant justement qu'il faut profiter de cela, c'est un moment favorable pour être à l'écoute de ceux qui... En fait, ce sont ceux qui viennent, qui tapent à la porte de l'église, de notre église, qui nous permettent d'évoluer, de changer, de s'adapter. Et je crois que dans la mission, c'est l'adaptation est nécessaire presque H24. Et donc, d'être à l'écoute de cela. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge que de laisser la place aussi à de nouvelles personnes qui peuvent apporter cela et puis d'oser. Et on s'est rendu compte aussi en équipe diocésaine que quand on leur dit « mais vous pouvez changer », il y en a presque, ils attendent cette phrase pour se dire « Ah bon, on peut ?» Et finalement, c'est un nouveau souffle aussi pour eux et pour leur équipe.
Et puis aussi, j'ai remarqué que ce dynamisme nouveau, parfois contredit les visions pessimistes aussi des chrétiens qui disent « Bon, mais de toute façon, on est dans une église qui va mal, qui périclite, on accompagne un déclin. » Et là, il y a une contradiction que l'Esprit Saint donne et du coup, ça bouscule. Et puis, il y a parfois des résistances quand même en disant « Oui, mais c'est juste ponctuel. » Mais donc voilà, ça fait que certains font aussi un cheminement intérieur, notamment des prêtres et des laïcs à mission ecclésiale qui sont appelés aussi à modifier leur vision, leur manière de voir.
Et ça nous permet aussi, du coup, de travailler dans la confiance. La mission, elle ne nous appartient pas, de se rappeler qui nous la confie, donc c'est le Seigneur, et qui nous appelle aussi à être dans la confiance les uns envers les autres et à l'écoute de l'Esprit-Saint. Et ça, c'est nécessaire dans la mission que d'être à l'écoute, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. Je n'ai pas la recette parfaite, mais c'est souvent, on doit remettre en question des choses, mais on doit avancer et se dépouiller parce que ça ne nous appartient pas, se laisser se dépouiller aussi.
Le mercredi décembre, on était avec Monsieur Balsa donc à la cathédrale de Sainte-Cécile et on attendait avant le début de la célébration et puis on a été surpris par le nombre de jeunes qui arrivaient. Et Monseigneur me dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Moi, je me suis dit, c'est pas possible, il y a trois autobus qui sont arrivés dehors, d'où ils sortent, un petit paquet comme ça, on en a compté 200 à peu près, sur les 500 ou 600 personnes qu'il y avait.
Des moins de 25 ans, des moins de 20 ans.
Qu'on n'avait jamais vu dans l'église. Ouais. Alors ça, c'est aussi cela, il va falloir les appeler. Enfin, ils viennent, donc ils se sentent appelés, mais voilà, donc c'est quelque chose d'important. Ce que je veux rajouter aussi, c'est qu'un des gros enjeux pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, c'est qu'ils puissent connaître le Christ. Et non seulement le connaître, mais le rencontrer. Pas uniquement par connaissance, encore il faut connaître un certain nombre de choses, mais surtout faire une rencontre avec le Christ lui-même, quoi. Parce qu'il y a trop de chrétiens, il y a un certain nombre de chrétiens qui sont plus âgés avec cheveux blancs, qui n'ont pas rencontré le Christ comme quelqu'un de... Et donc c'est plus moralisateur, si vous laissez dire, oui, être chrétien, ben, c'est être gentil, faire le bien et pas faire le mal. J'ai besoin d'être chrétien pour dire ça, quoi. Donc du coup, il y a un énorme enjeu là, de la rencontre du Christ, et là le Christ il s'invente pas, et on attend de nous les adultes, c'est là qu'on le propose. Alors il faut s'adapter, il faut voir avec le langage des jeunes comment, mais qu'ils puissent être rencontrés aussi comme étant décisif, quelqu'un qui va pouvoir sauver.
Est-ce que vous, jeunes, vous avez approché et vous approchez directement un peu ces adolescents? Quels sont un petit peu les profils de ces adolescents que vous côtoyez ou que vous accompagnez, Marie-Lou et Élise?
C'est vrai que oui, on a tous plus ou moins rencontré déjà quelqu'un avec qui on a du coup pu l'accompagner. Comme on disait, l'accompagnement, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la base du coup de notre religion. Mais on a pu accompagner différentes personnes dans un chemin de foi vers différents, que ce soit un sacrement ou tout simplement la rencontre avec le Christ, parce que c'est quand même assez important. Et justement, même nous, même si on l'a déjà rencontré d'une façon ou d'une autre, on continue à le rencontrer justement par cet accompagnement et par ces équipes qu'on finit par souder, même si bien sûr, comme le disait le père Sébastien, il y a des limites parce que effectivement, il y a quand même un manque de personnel qu'on constate. Mais justement, je pense que le personnel qui est là et les accompagnateurs qui sont aujourd'hui présents au sein du diocèse et au sein de différents rassemblements, ça fait vraiment le fait que ce soit de plus en plus en petit comité, on est de plus en plus soudés et on est de plus en plus à l'écoute. Et c'est ce qu'on disait il n'y a pas longtemps. On parle vraiment du fait qu'on, même si on est des avis différents, etc., on arrive à avoir un chemin d'entente pour pouvoir justement mener au mieux ces pèlerinages et donner aux jeunes du coup l'envie de s'engager dans l'Église.
Alors comment provoquer cette rencontre avec le Christ si elle n'a pas peut-être eu lieu encore, Monseigneur ? Et ça sera peut-être le mot de fin qui va clôturer ce magazine de Vivante Église.
Alors je pense qu'on ne peut pas le provoquer, on peut simplement permettre ce que le Christ lui-même rencontre des jeunes ou des adultes. Donc il faut que l'Église soit en fait cet intermédiaire où on peut rencontrer le Christ, mais on ne peut pas le provoquer, parce que peut-être que le Christ ne veut pas rencontrer tout le monde, lui-même d'ailleurs, et à son temps, et qu'un jeune n'a pas peut-être le temps encore, ou ce n'est pas son temps. Donc il faut que l'Église soit un réceptacle dans lequel il est possible de rencontrer le Christ. Alors évidemment, à nous de tout faire pour que cette possibilité se fasse. Après, est-ce que la rencontre se fait ou pas, ça dépend et du Christ et des jeunes. Ça restera toujours le mystère. À nous de ne pas faire écran, et puis à nous de faire envie plutôt que pitié.
Un mot et peut-être une bénédiction pour les auditeurs qui vous ont écouté aujourd'hui et maintenant, Monseigneur.
Oui, alors je salue du coup tous ceux qui sont dans la banlieue d'Albi, en particulier les Toulousains, qui nous écoutent, hein, puisque c'est la grande banlieue d'Albi, voilà. Donc je donne ma bénédiction à tous ceux qui nous écoutent et puis en particulier peut-être aux étudiants qui se réclament un peu du diocèse d'Albi, de savoir que cet été nous partons célébrer le jubilé à Rome. En plus, il y aura le nouveau pape. Et donc, si les étudiants nous écoutent, qu'ils se signalent tout simplement dans le diocèse d'Albi. Vous avez compris que un des avenirs de l'Église se joue à Albi. Merci.
Voilà, c'est dit.
Ah oui, désolé, hein, mais c'est comme ça.
C'est le cœur qui a parlé. Un grand merci.
Plus, c'est vrai.
Un grand merci à vous tous pour ces échanges riches et profonds. Merci à vous, Monseigneur Balza. Merci au Père Sébastien Diakoff. Merci à vous, Laurence Boer. Merci à Lise et Marie-Lou pour vos témoignages qui étaient bien dans cette dynamique aussi de la jeunesse. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est qu'au-delà des mots ou des traditions, l'Église vit à travers des visages, vit à travers des engagements, et vous nous l'avez prouvé, à travers des parcours et notamment à travers ces jeunes qui osent croire, qui s'impliquent et se mettent en route. Merci à vous tous, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve pour un même magazine la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.